VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour Nathalie Barge et Anne Albertson.
Au sommaire en ce jeudi 19 mars 2015.
En Tunisie, 19 morts et au moins 24 blessés dans une attaque armée hier contre des touristes à Tunis.
Somalie, le Pentagone confirme la mort d'un chef d'Al-Shabaab dans un raid aérien américain la semaine dernière.
Les élections locales avant la présidentielle, c'est l'exigence de l'opposition guinéenne qui a décidé de se retirer du Parlement.
Comment le Niger et ses milliers de kilomètres de frontières parvient-il à se protéger contre les djihadistes qui l'entourent?
Aujourd'hui, nous sommes, si vous voulez, au niveau des trois frontières, notamment la frontière avec le Mali, la frontière avec la Libye et la frontière avec le Nigeria.
La réponse tout à l'heure avec Mahamadou Karidio, ministre de la Défense du Niger, au micro de notre envoyé spécial Idriss Fall.
La conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique s'est ouverte hier à Abidjan. Au menu, entre autres.
Lutter contre le terrorisme, le trafic des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, et le trafic des marchandises illicites.
Le président ivoirien Alassane Ouattara.
Et au lendemain de la victoire de Benjamin Netanyahou, Washington réaffirme son soutien à une solution à deux États dans les négociations israélo-palestiniennes.
Et avant la Minute Éco et les sports, voici les infos.
Le Premier ministre tunisien a annoncé que 21 personnes, y compris des touristes, ont été tuées hier par des hommes armés au musée du Bardo à Tunis. Deux des assaillants ont également été abattus lorsque les forces de sécurité sont intervenues pour mettre fin à l'attaque. Parmi les morts, 17 sont des voyageurs en provenance de Pologne, d'Italie, d'Allemagne et d'Espagne. Deux membres des forces de sécurité ont également été tués lors de l'opération, a déclaré le Premier ministre Habib Essid lors d'une conférence de presse. Ajoutant qu'au moins 24 personnes ont été blessées dans cette attaque près du Parlement. Pour l'heure, on ignore qui étaient les hommes armés.
Le Pentagone a confirmé qu'un chef du groupe islamiste Al-Shabaab a été tué la semaine dernière dans une attaque de drone américain dans le sud de la Somalie. L'attaque aérienne du 12 mars a frappé une voiture transportant Adan Garar, un haut dirigeant du service de sécurité d'Al-Shabaab, l'Amniyat, tel que rapporté par la Voix de l'Amérique le jour de l'attaque. Le Pentagone a ajouté que cette attaque près de Dinsour en Somalie a porté un coup important à Al-Shabaab.
En Guinée, l'opposition suspend sa participation au Parlement et à la commission électorale pour marquer son désaccord avec le calendrier électoral actuel. Des détails avec Nicolas Pinault.
Oui, cette décision est symbolique puisque l'Assemblée guinéenne ne siégera pas avant le mois prochain. Sélou Dalein Diallo, Sidya Touré et Lansana Kouyaté, les trois grands leaders de l'opposition, doivent se retrouver ce week-end à Paris pour faire le point. Ils se sont déjà mis d'accord pour que les 49 députés de l'opposition se retirent de l'Assemblée nationale jusqu'à nouvel ordre. L'opposition décide aussi de ne plus reconnaître l'autorité de la CENI. Par ce geste, les opposants guinéens espèrent se faire entendre pour que les élections locales aient lieu avant le scrutin présidentiel. Dans le calendrier actuel, la Commission nationale électorale indépendante prévoit d'organiser le scrutin présidentiel le 11 octobre et les élections communales en 2016. Depuis l'élection d'Alpha Condé à la tête de la Guinée, les relations entre opposition et pouvoir guinéen sont exécrables et beaucoup redoutent de nouvelles violences lors de la présidentielle.
Le gouvernement malien et la médiation internationale ont écarté hier toute discussion du contenu de l'accord de paix d'Alger, appelant de nouveau le mouvement rebelle du nord du Mali à le paraffer en l'état. Des précisions avec Claire Morin-Gibourg.
La CMA, la coordination des mouvements de l'Azawad, a plusieurs revendications et notamment la reconnaissance officielle de l'Azawad comme une entité géographique, politique et juridique, en référence à l'appellation du nord du Mali par les rebelles, mais aussi la création d'une assemblée interrégionale couvrant cette zone et un quota de 80% de ressortissants de l'Azawad dans les forces de sécurité. Dans un communiqué publié hier, la médiation internationale précise que la phase des négociations est achevée, mais disant avoir pris bonne note des exigences présentées lors de la rencontre de Kidal, elle souligne que cet accord n'a pas la prétention de résoudre à la fois et dans l'immédiat tous les problèmes posés. De son côté, le gouvernement malien affirme de manière solennelle que le paraphe du document, en attendant sa signature, exclut toute idée d'ouvrir de nouvelles négociations sur son contenu. Son porte-parole, Choguel Maïga, a déclaré que les autorités maliennes appellent la médiation à ses responsabilités en tant que garant du processus de paix.
Au Tchad, c'est en principe aujourd'hui que les cours reprennent à N'Djamena. Ils avaient été suspendus par les autorités suite aux violents incidents liés à l'imposition du casque aux motocyclistes. Des incidents qui avaient coûté la vie à un étudiant. Estimant avoir été pris à partie alors qu'il n'était pas à l'origine des violences, les étudiants avaient déclenché une grève illimitée en signe de protestation. En dépit des concertations avec les autorités, ils estiment que leurs principaux griefs n'ont pas été pris en compte.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Une fusillade dans un bar à Göteborg en Suède a fait au moins plusieurs morts et plusieurs blessés la nuit dernière. Les blessés ont été transportés à l'hôpital, a déclaré à l'AFP une porte-parole de la police. Une arme automatique a été utilisée, a précisé cette porte-parole, ajoutant que cette attaque pouvait être liée au crime organisé. La police a ensuite annoncé dans un communiqué que le nombre de morts était susceptible d'augmenter.
La réélection du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou n'aura aucun impact sur les négociations nucléaires avec l'Iran, assure le département d'État américain. De son côté, la Maison-Blanche a réaffirmé hier son soutien à une solution à deux États dans les négociations israélo-palestiniennes. Des précisions avec Eddie Issangou.
Monsieur Netanyahou s'était juré à la veille du scrutin de ne jamais accepter la création d'un État palestinien aux côtés d'Israël. Mais le président Barack Obama continue de penser que cette solution est la meilleure façon de répondre aux tensions, a déclaré hier Josh Ernest, porte-parole de la Maison-Blanche. Monsieur Ernest a par ailleurs exprimé l'inquiétude des États-Unis face à certains discours qui divisent et cherchent à marginaliser les citoyens arabes israéliens. Concernant les nucléaires iraniens, les porte-paroles du département d'État américain, Jen Psaki, a déclaré « Nous connaissons depuis longtemps le point de vue du Premier ministre sur l'Iran », ajoutant que la réélection de M. Netanyahou n'échangera pas la donne. Les négociations avec l'Iran se poursuivent à Lausanne, en Suisse. Les relations entre M. Obama et Netanyahou, notoirement tendues, se sont encore aggravées avec la venue à Washington du Premier ministre israélien à l'invitation des républicains du Congrès pour un discours dans lequel il a dénoncé avec virulence les négociations en cours avec l'Iran.
Au Yémen, le trafic aérien à l'aéroport international d'Aden a été suspendu ce jeudi en raison de violences dans les environs entre partisans et adversaires du président Abdrabo Mansour Hadi, rapporte l'AFP. Plusieurs vols ont été annulés, a déclaré une source aéroportuaire, tandis que de violents accrochages opposaient des unités des forces spéciales dirigées par un officier rebelle et des membres de comités populaires partisans du président Hadi.
Et le gouvernement du Vanuatu reproche aux organisations humanitaires mobilisées dans l'archipel dévasté par un cyclone une mauvaise coordination ayant causé une perte de temps considérable au secours, indique l'AFP. Le vice-président de la Commission nationale des catastrophes, Benjamin Xing, a remercié les associations internationales tout en soulignant que la famine menaçait les habitants. Beaucoup d'ONG ont travaillé dans leur coin plutôt que de coopérer avec le gouvernement, a-t-il déploré. Vendredi, le cyclone PAM, avec des rafales supérieures à 320 km/h, a fait plusieurs morts et détruit de nombreuses habitations sur l'archipel. Monsieur Xing n'a pas mâché ses mots hier soir devant la presse à Port Vila, la capitale. Dans presque tous les pays où ils vont, ils ont leur propre système opérationnel, leur propre réseau et ils refusent de se conformer aux directives gouvernementales, a-t-il accusé. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est dans la Minute Éco avec Jean-Roger Bion.
La Banque centrale américaine a fait hier un pas supplémentaire vers une hausse de ses taux d'intérêt. La Fed a changé de posture en abandonnant son engagement à se montrer patiente, même si elle a précisé qu'un tel relèvement n'aurait pas lieu en avril. À l'issue de deux jours de réunion à Washington, le comité monétaire de la Réserve fédérale a une nouvelle fois confirmé le maintien de ses taux directeurs proches de zéro, leur niveau depuis fin 2008, afin de continuer à soutenir la reprise aux États-Unis. Cameroun, plus de 36 milliards de francs CFA pour l'approvisionnement en eau potable à Yaoundé. Ce capital a pu être réuni grâce à une convention de coopération entre la Société Générale de France, la Banque Import-Export des États-Unis et le gouvernement camerounais. Le projet visé devrait permettre en phase d'urgence de porter l'offre à 205 000 mètres cubes pour la capitale Yaoundé en proie à l'assèchement régulier des robinets. Et le groupe informatique américain Microsoft a annoncé que son nouveau système d'exploitation Windows 10 serait lancé cet été dans 190 pays et disponible en 111 langues. Microsoft avait précédemment indiqué en début de semaine que le futur système d'exploitation offrirait la possibilité de se connecter sans mot de passe en utilisant des technologies biométriques comme la reconnaissance faciale.
Merci beaucoup Jean-Roger pour cette page économie. Et à présent, les sports avec Nicolas Pineau. Bonjour Nicolas.
Bonjour Nathalie.
Alors la CAN Junior au Sénégal, l'heure de vérité pour les Lionceaux de la Teranga.
Le pays organisateur affronte tout à l'heure le Mali pour une place en finale. Les Maliens premiers du groupe B partent légèrement favoris, alors que le Sénégal a arraché sa qualification lors de l'ultime journée face au Congo, victoire 4-3. Le coup d'envoi, c'est tout à l'heure, 17h, temps universel. Le vainqueur de cette demi-finale rencontrera le Nigeria. Les Flying Eagles ont battu les Black Starlets du Ghana hier, 2-0. Obinna Emmanuel Bobodo avait ouvert le score en première mi-temps. Puis c'est le capitaine nigérian Moussa Mohamed qui a porté le coup de grâce en fin de match, victoire 2-0. Les Nigérians atteignent donc la finale de cette CAN Junior.
La Côte d'Ivoire, victorieuse de la CAN 2015, affrontera finalement la Guinée équatoriale et non la Guinée en match amical le 29 mars à Abidjan.
Le désistement de la Guinée relève d'un problème administratif, a précisé la Fédération ivoirienne de football. Un autre match amical contre l'Angola est toujours prévu le 26 mars à Abidjan.
Le championnat d'Égypte va reprendre le 30 mars, mais tous les matchs seront à huis clos.
Le championnat avait été suspendu à l'issue des violences meurtrières devant un stade du Caire début février. Le gouvernement égyptien autorise donc la reprise du championnat. C'est ce qu'a indiqué le bureau du Premier ministre Ibrahim Marlab dans un communiqué.
Les derniers huitièmes de finale de la Ligue des champions en Europe. En Allemagne, le miracle n'a pas eu lieu. La Juventus de Turin s'est qualifiée aux dépens de Dortmund. Le score final hier soir, 3-0. Au camp nou non plus, il n'y a pas eu de suspense. Le FC Barcelone vainqueur à l'aller en Angleterre se qualifie aussi pour les quarts de finale. 1-0 hier soir contre Manchester City. Et enfin, Nicolas, le tournoi de tennis d'Indian Wells aux États-Unis.
Oui, Andy Murray a mis fin au parcours d'Adrian Manarino, le score en 2-7, 6-3, 6-3. Et puis Nathalie, je vous laisse donner quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain.
Oui, Nicolas, hier soir, les Spurs de San Antonio ont gagné contre Bucks de Milwaukee par 114 à 103. Los Angeles a gagné contre les Kings de Sacramento 116 à 105. Washington Wizards l'a emporté contre Utah Jazz 88 à 84. Les Warriors ont gagné contre Atlanta 114 à 95, entre autres matchs dans la soirée d'hier soir, Nicolas.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum. Ce jeudi, gros plan sur l'allégeance de Boko Haram au groupe État islamique. Est-ce une réaction attendue de Boko Haram face à l'offensive des armées tchadiennes, nigériennes et camerounaises venues soutenir le Nigeria ? Qu'apportera cette alliance aux deux groupes djihadistes ? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h TV.
Salut les amis. Ici Rouge et Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, African Music, les anciens et nouveaux morceaux africains. Vos commentaires sur notre page Facebook, Rouge et Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers du jour. 21 morts, dont 17 touristes et au moins 24 blessés. C'est le dernier bilan de l'attaque contre le musée du Bardo à Tunis. Hier, des hommes armés ont ouvert le feu sur les visiteurs. L'attaque intervient dans un contexte politique encore très tendu et une situation économique qui ne fait que s'aggraver depuis le printemps arabe. Pour une analyse, Salwa Jafari a joint à Paris le spécialiste du monde arabe Mustapha Tossa.
C'est le genre d'opération auquel se livrent des organisations terroristes comme Al-Qaïda ou l'État islamique. Et on sait que depuis un certain temps, les autorités tunisiennes avaient procédé à des démantèlements fréquents de cellules terroristes qui préparaient des attentats en Tunisie. Ils avaient aussi découvert des caches d'armes. Donc il y avait une pression sécuritaire sur la Tunisie qui était extrêmement importante et palpable. Et cette pression sécuritaire vient toujours du chaos libyen. On sait qu'il y a des organisations terroristes très actives en Libye et qui ont promis de commettre des attentats en Tunisie. Et donc ils ont réussi à tuer des gens et surtout à s'attaquer à des symboles dans un contexte politique extrêmement important pour la Tunisie.
Que pouvez-vous nous dire sur le contexte politique actuel ?
D'abord, la Tunisie est un des rares pays du printemps arabe qui a réussi relativement une douce et démocratique transition qui a été saluée par beaucoup de pays, dont les États-Unis et l'Union européenne. Donc, il y a une jeune démocratie qui était en train de naître et de grandir. Donc, il faut dire qu'un certain nombre d'organisations terroristes n'ont aucun intérêt à ce que ce genre d'expérience puisse voir le jour sur le territoire arabe. Le deuxième message, c'est de voir aussi à quel point la Tunisie voisine est impactée par la situation en Libye. Tant qu'on n'a pas réussi à trouver une solution sécuritaire à ce qui se passe en Libye, on aura forcément des impacts de ce chaos sur les pays voisins. Et je considère que cette opération terroriste, parce qu'elle vise un lieu touristique à côté d'un lieu politique symbolique qui est le Parlement, fait partie de ces démarches et de ces entreprises de terreur qu'exportent des organisations comme l'État islamique ou Al-Qaïda. Troisième élément qui est très important, il ne faut pas oublier que cette opération terroriste intervient à la veille d'un projet de réconciliation nationale que le nouveau président de la République, Bachir Kaïd Sebsi, allait proposer aux Tunisiens. On peut envisager que cet attentat-là a pour but aussi d'empêcher la réconciliation et la stabilisation et la pacification des esprits en Tunisie.
C'était le journaliste et politologue Mustapha Tossa. Hier, le ministre nigérien de la Défense a parlé de questions de sécurité sur la voie de l'Amérique. Voici la seconde partie de l'entretien avec notre envoyé spécial Idriss Fall. Le sud de la Libye continue d'être une grande source d'insécurité, a expliqué Mamadou Karidio, tout en soulignant que l'armée surveille également la situation sur les autres frontières, notamment avec le Mali et bien sûr le Nigeria.
Tous les trafiquants du monde sont à Libye. Et nous savons que le sud libyen est devenu leur terreau. Nous avons pris des dispositions au niveau du Niger pour mettre en place des bataillons autonomes et essayer de verrouiller le passage qui peut les amener au Mali. On essaie de contrôler le trafic entre la Libye et le Mali. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile, mais nous sommes en train de faire ce que nous pouvons faire avec nos forces spéciales et aussi la collaboration des partenaires stratégiques. Bien sûr qu'à un moment donné, on était plus concentré sur le sud libyen, sans perdre des yeux ce qui s'est passé au Nigeria, je veux dire sur notre frontière au niveau de Difa. Et à un moment donné, comme nous avons senti que la menace était vraiment imminente, nous avons renforcé nos positions sur cette frontière-là, tout en restant avec assez d'effectifs sur les autres positions. Telle enseigne qu'aujourd'hui, nous sommes, si vous voulez, au niveau des trois frontières, notamment la frontière avec le Mali, la frontière avec la Libye et la frontière avec le Nigeria.
Quel est l'apport des États-Unis dans la lutte contre le terrorisme?
Beaucoup de renseignements que nous partageons avec les États-Unis d'Amérique. Beaucoup d'interventions au niveau de la formation de nos hommes. Nous avons des forces expéditionnaires, des forces spéciales qui ont été formées par les forces armées américaines. Nous avons beaucoup de matériel qui ont été donnés par le gouvernement des États-Unis d'Amérique. Je dirais que la coopération entre les forces armées américaines et les forces armées nigériennes est très fructueuse et c'est des partenaires stratégiques qui, sur le terrain, nous aident par le renseignement et la formation. Ils n'interviennent pas au combat, au sol, avec nous, mais en tout cas, ils nous donnent assez de renseignements pour nous permettre d'anticiper et d'accomplir nos missions avec le minimum de risques.
Les drones américains sont toujours présents, déployés ici, et il y en a combien?
Je souhaiterais ne pas vous dire combien il y en a, mais ils sont là quand même.
C'était le ministre de la Défense du Niger, Mamadou Karidjo.
La Voix de l'Amérique au Niger sur Enfani FM à Niamey, Zinder et Agadez et sur Radio Dalol FM à Dongondouchi.
Au Tchad, c'est en principe aujourd'hui que les cours reprennent à N'Djamena, nous vous l'avons dit tout à l'heure. Ils avaient été suspendus par les autorités suite aux violents incidents liés à l'imposition du casque aux motocyclistes, des incidents qui avaient coûté la vie à un étudiant, estimant avoir été pris à partie alors qu'il n'était pas à l'origine des violences. Les étudiants avaient déclenché une grève illimitée en signe de protestation. En dépit des concertations avec les autorités, ils estiment que leurs principaux griefs n'ont pas été pris en compte. Timothée Donangmaï a joint hier soir à N'Djamena Nadjo Kaina, le président de l'Union nationale des étudiants tchadiens.
Dès le départ, le bureau national des étudiants tchadiens a posé quelques conditions avant la reprise des cours. Nous avons été reçus par le chef de l'État. Nous avons essayé de discuter sur les conditions. Et comme nous l'avons dit à la sortie de l'audience, nous allons faire un compte-rendu à la base. Et c'est ensemble avec les étudiants que nous allons décider dans quelle mesure nous allons reprendre avec les cours.
Quelles sont ces conditions?
Donc, le bureau national de l'UNB avait posé comme première condition le départ sans condition du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. On a mis sur pied une enquête spéciale où l'UNB sera parti. On va dire devant la justice les coupables et la suivi des blessés. Et je crois que quelques points ont été abordés par le chef de l'État. Et comme nous l'avons dit, nous allons faire un travail avec les étudiants à la base. Nous allons voir quelles sont les avancées. Et c'est ainsi que nous allons voir dans quelle mesure nous allons reprendre avec les cours.
Aux dernières nouvelles, on a appris l'interpellation des policiers qu'on a vus sur cette vidéo en train de violenter des lycéens. Quelle est votre réaction à cela?
Non, je crois que, comme nous l'avons dit, nous voudrions que la lumière soit faite afin qu'on constitue les responsabilités. Si les policiers arrêtés sont coupables, ils doivent être traduits devant la justice pour répondre de leur acte. Et je crois que lors de cette bavure, il n'y avait pas seulement que 11 policiers. Et nous attendons la suite de l'enquête pour voir.
Quel délai vous donnez-vous pour arrêter une position?
Je crois que les étudiants sont en grève très limitée. En même temps, nous sommes en train de faire un travail préalable avec les étudiants. Donc, nous n'avons pas de délai à donner de temps puisque nous sommes déjà en grève très limitée.
Donc, on peut conclure que vous n'êtes pas satisfait par les mesures prises jusqu'ici par les autorités.
Je crois qu'il y a quelques avancées et à certains points qui n'ont pas été encore pris en compte. Et nous attendons toujours la suite. Néanmoins, nous allons faire le compte rendu fidèlement aux étudiants et ensemble, lors de l'Assemblée générale, je crois que nous allons décider si nous allons reprendre avec les cours ou pas encore.
Mais ne pas reprendre les cours, est-ce que cela ne vous causera pas du tort pour l'année académique?
Certes, monsieur, c'est aussi un moyen de pression pour que la lumière soit faite et que de tels événements ne se répètent plus.
Nadjo Kaina est le président de l'Union nationale des étudiants tchadiens.
La Voix de l'Amérique au Tchad, 24 heures sur 24, à N'Djamena, en direct sur 93.1 FM et sur FM Liberté, aussi à N'Djamena.
Une conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique s'est ouverte mercredi à Abidjan. Germain Dry, notre correspondant, nous en parle.
Environ 40 pays invités avec près de 300 experts de haut niveau vont à travers des panels et conférences évaluer les conditions de l'émergence, améliorer leur politique et stratégie par rapport aux leçons apprises et saisir les opportunités nouvelles pour le bien-être des populations. Dès l'entame des échanges, Riyad Medim, conseiller économique principal pour le développement des Comores, a affirmé qu'il attend beaucoup des autres.
Ce qu'on attend de cette conférence, c'est des échanges de bonnes pratiques sur les stratégies d'émergence. D'autant plus qu'on est passé d'un document de stratégie et de réduction de la pauvreté classique à une croissance accélérée et dans laquelle nous mettons l'environnement comme un moteur de la croissance. Et surtout apprendre de certains pays qui sont déjà arrivés au niveau de l'émergence les meilleures pratiques.
Les objectifs pour atteindre l'émergence sont multiformes. C'est pourquoi les points de vue des dirigeants sont variés. Aboula Amandieh, traité régional du PNUD pour l'Afrique, a énuméré deux contraintes à ne pas négliger.
D'abord, il y a des contraintes d'ordre structurel. Très souvent, c'est des économies basées sur un secteur. Le pétrole, le café, le cacao. Et quand il y a des retournements de conjoncture, l'économie s'effondre. Il faut que les économies soient diversifiées, interconnectées et que les facteurs de production passent des secteurs moins productifs vers les secteurs plus productifs. Un petit pays ne peut pas émerger comme ça tout seul, sans l'intégration économique. On ne pourra pas émerger sans coopération et intégration régionale.
Le président sénégalais Macky Sall pense que la croissance seule ne suffit pas.
La croissance n'est pas une fin en soi. Elle n'a de portée réelle que si elle transforme qualitativement et de façon durable les conditions de vie des populations. En plus d'être forte et durable, la croissance qui conduit vers l'émergence doit générer des emplois, faire reculer le chômage et la pauvreté et réduire les inégalités sociales. L'Afrique a des déficits substantiels qu'elle ne peut combler qu'en changeant de rythme et d'approche dans ses politiques de développement.
Le chef de l'État ivoirien estime qu'il faut tenir compte de la coopération. Alassane Ouattara.
Si nous voulons réussir le pari de l'émergence, nous devons promouvoir l'efficacité de la coopération au développement, à commencer par la coopération sud-sud et la mobilisation des ressources intérieures. Renforcer le partage des connaissances et des capacités humaines et institutionnelles en vue d'accroître la valeur ajoutée intra-africaine et le progrès technologique, gage d'une amélioration des moteurs de la croissance. Lutter contre le terrorisme, le trafic des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, et le trafic des marchandises illicites.
Germain Dri, Abidjan, VOA Afrique.
Au Bénin, alors que le gouvernement a interdit la consommation de viande d'animaux sauvages afin de préserver les populations contre le virus Ebola, certaines localités n'entendent pas changer leurs habitudes alimentaires. Plusieurs mois après l'interdiction, Peggy Ludovic Dagba, notre correspondant, s'est rendu à Alada, dans le sud du pays, une région réputée pour la viande d'agouti.
La localité d'Alada, située à une soixantaine de kilomètres de Cotonou, dans le nord du Bénin, est connue pour être le berceau de la viande d'agouti. La consommation des viandes de brousse y est une tradition et les habitants ne pensent pas s'en départir malgré le risque de contracter le virus Ebola. Quelques-uns d'entre eux se sont confiés à nous.
Nous aimons les viandes de brousse parce que tous nos aïeurs consommaient la viande de brousse. C'est pourquoi nous aussi, nous consommons ça jusqu'à présent. Si Ebola existe ou pas, nous ne savons pas. Il n'y a pas un cas confirmé au Bénin. C'est pourquoi nous consommons.
Et vous allez continuer toujours pas consommer?
Oui, nous consommons toujours.
Je mange la viande de la brousse.
Mais vous n'avez pas peur des maladies?
Non.
Je ne continue pas à manger les viandes de brousse, précisément la viande d'agouti. J'aime trop ça, je ne peux pas laisser. Il y a aussi le prix. Les autres viandes sont plus chères. Mais par rapport même au virus d'Ebola, vraiment, il faut y croire pour s'empêcher d'en consommer. Parce que cette histoire de virus d'Ebola, vraiment, on sait qu'il y en a, mais ce n'est pas encore venu au Bénin.
L'activité que constitue la vente de cette viande y est aussi héréditaire. Elle se transmet de la mère à la fille et rien ne peut la leur arracher. Pas même l'interdiction du gouvernement, comme nous le précise ici cette vendeuse rencontrée à Alada.
Ce commerce, je l'ai hérité de ma mère. Je vends la viande d'agouti depuis 30 ans. On en fait toutes sortes d'usages alimentaires et personne n'est jamais tombé malade. Cette mesure n'a fait qu'entraîner la mévente et nous sommes endettés jusqu'au bout. C'est ce commerce qui nous permet de joindre les deux bouts.
On le constate bien, les décisions gouvernementales ont du mal à passer au niveau des populations à la base. Peggy Ludovic Dagba, Cotonou, VOA Afrique.
Ainsi va le monde aujourd'hui. La mise en onde était assurée par Anne Albertson. À la console, c'était Jim Armand. Avec vous, c'était Nathalie Barge. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voaafrique.com. Bon jeudi à toutes et à tous.
Soyez au cœur de l'info.